partager le savoir.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dans l'émission Partager le savoir consacrée aux expériences, aux pratiques et aux formations concernant la langue française dans les différentes parties du monde, j'accueille Carlos Carmona pour nous parler en ce mois de janvier 2006 de la langue française en Amérique du Nord, plus particulièrement au Canada et surtout au Québec. Carlos Carmona, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes membre de la FIPF, secrétaire d'une des grandes commissions de la FIPF et vous êtes également professeur de français au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Carlos Carmona, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord la Fédération internationale des professeurs de français, la fameuse FIPF, avec laquelle Canal Académie est en partenaire?
Je vais essayer d'être bref. La Fédération internationale des professeurs de français, c'est un regroupement d'associations, comme le nom l'a dit, une fédération qui regroupe à peu près 70 000 professeurs qui sont regroupés dans 165 et 166 associations qui sont réparties sur les 5 continents. Les associations réparties sur chacun des continents sont divisées en commissions, et des commissions établies selon un ordre géographique. Bon, il y a certaines commissions en Europe, en Amérique latine, pays d'Afrique, ainsi de suite. Moi, je fais partie plus particulièrement de la commission d'Amérique du Nord,
voilà,
qui regroupe les associations de professeurs de français au Québec, au Canada et aux États-Unis.
Quels sont les objectifs généraux de la fédération?
Parmi les objectifs de la fédération, je pense qu'on peut parler fondamentalement de la promotion du français,
oui,
dans le monde, la contribution à la qualité de son enseignement, mm-hmm, ainsi qu'à la diffusion des cultures francophones dans le cadre d'un plurilinguisme et d'un dialogue de culture. L'association aussi a comme objectif de favoriser les échanges et les dialogues entre les enseignants de français. Si on parle d'un objectif plus particulier, l'objectif que nous, comme Commission d'Amérique du Nord, on s'est donné, c'est de travailler à la préparation d'un congrès international des professeurs de français.
Alors, parlez-nous de cette commission d'Amérique du Nord au sein de la FIPF. Vous y travaillez. Quel est son rôle? Quels sont ses objectifs? Et comment dynamise-t-elle le réseau, justement, des associations? Il y a combien d'associations, d'abord, au Québec?
Au Québec, il y a 2 associations et, exceptionnellement, je pense que c'est un cas très particulier, ces 2 associations ne font pas partie de la même commission. Il y a une association, celle dont je fais partie, qui est l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde, qui regroupe les professeurs qui enseignent le français autant comme langue seconde que comme, pas comme langue étrangère, parce qu'au Québec, on ne parlait pas de langue étrangère, contrairement à l'enseignement du français.
Alors,
dans
qu'est-ce
le
que
reste
c'est qu'une langue
monde.
Seconde pour nos internautes? Ben,
une langue
auditeurs.
Seconde, prenons le Québec parce que c'est beaucoup plus simple.
Mm-hmm.
Au Québec, il y a 2 langues qui sont parlées parce que le Québec fait partie du Canada, donc avec 2 langues officielles, l'anglais et le français. Pour un anglophone, l'anglais est sa langue maternelle et le français est sa langue seconde, mais ce n'est pas une langue étrangère parce qu'elle est parlée à l'intérieur du même pays. Donc c'est la particularité de ce que nous on appelle langue seconde par rapport au français qui est enseigné. Je vais prendre le cas de mon pays d'origine, le Chili,
oui,
où on enseignait très peu le français, mais le français n'est pas une langue qui est d'usage courant. Donc les gens qui apprennent le français l'apprennent comme une langue d'usage à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, dans le langage, le FLE, c'est-à-dire le français langue étrangère.
Alors, revenons à cette commission.
Oui, et je vous disais, pour revenir pas nécessairement à la commission, pour revenir au Québec plus
oui.
particulièrement, je vous disais qu'il y a la particularité que nous avons une association qui regroupe les professeurs de français langue seconde, donc la nôtre,
oui.
et une association qui regroupe les professeurs de français langue oui. maternelle. Et les professeurs de français langue maternelle font partie de la commission à l'intérieur de la fédération. Il y a une commission de professeurs de français de langue maternelle donc, qui regroupe des professeurs qui sont fondamentalement en France, Belgique, la Suisse et le Québec.
Donc en fait, il y a des commissions qui regroupent des grands ensembles géographiques, plus cette commission qui ne s'occupe que du français langue maternelle.
Effectivement.
Et à l'intérieur de celle-ci, on va retrouver plusieurs pays.
Fondamentalement, les pays où le français est une langue d'usage.
Voilà. Alors, quelle est la particularité? Quels sont les projets actuels, justement, de la Commission?
Plus que la commission, je vous dirais que c'est les deux associations, la QFLS et la QPF. Donc AQEFLS, qui est l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde, et la QPF, qui est l'Association québécoise des professeurs de français, que même si on fait partie des deux associations différentes, et je pense que c'est la première fois que ça s'est fait, la première fois que ça se voit à l'intérieur de la fédération, les deux associations qui faisant partie des deux commissions différentes, on travaille conjointement pour organiser le prochain congrès de la Fédération internationale des professeurs de français. Le dernier congrès a eu lieu en 2004 à Atlanta, aux États-Unis, donc la même commission que la nôtre, la CAN.
Oui.
Mais le prochain congrès, qui aura lieu en 2008, va avoir lieu du 21 au 25 juillet 2008 dans la belle ville de Québec, dans le cadre d'une entreprise énorme qui est le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Et ça a été, je pense, l'argument massu qui nous a permis de remporter cette victoire en 2004. Mais là, ça devient, là, on peut plus parler de victoire. Là, c'est une grosse entreprise qu'on monte, sur laquelle on travaille et on essaye d'attirer entre 2000 et 2500 professeurs de français en juillet 2008 à Québec.
Et sans vous demander de tout dévoiler, là on est très en amont dans le projet, on a un peu le thème particulier, les angles d'approche sont déjà définis.
Le thème n'est pas complètement défini, on a défini ce que nous appelons une déclinaison thématique qui se lie grosso modo le dernier congrès parlait de diversité culturelle. C'est très à la mode, la diversité culturelle.
Et au Québec et au Canada, la diversité linguistique est chère à tout le monde.
Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est d'avoir un congrès qui se situerait dans la définition des identités francophones dans un contexte de mondialisation. On est dans un contexte où, à travers Internet, à travers les échanges, la communication, la culture, tout devient mondial.
Oui.
Tout est c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a un concurrent de marque qui est l'anglais. Beaucoup de choses se font en anglais. Mais nous, notre objectif, c'est de créer dans les pays francophones ou dans les pays qui font partie de la francophonie et même dans les pays où on enseigne le français, des identités francophones tout en respectant ce contexte de mondialisation.
Alors, ce contexte de mondialisation est-il menaçant vraiment pour le français ou le sert-il?
C'est une question à 1 000 $, je pense. Une question très difficile à répondre. Je pense que le contexte de mondialisation peut être un péril pour le français, mais si on travaille fort, si on se donne des objectifs clairs, ça peut nous servir.
Ça peut au contraire mettre en valeur la richesse de la langue, ses qualités.
Il y a quelques années, au début du XXe siècle, quand on enseignait le français dans la plupart des pays, les gens qui apprenaient le français l'apprenaient non pas comme une langue de communication,
oui,
mais à cause de la culture française,
voilà,
qui était omniprésente dans le monde. Avec les différentes tendances en didactique de langue, à un moment donné, l'apprentissage de langue est devenu quelque chose de beaucoup plus mercantile, c'est-à-dire apprendre une langue comme un outil de communication. Là, moi, je pense qu'on est à un croisement des chemins où il va falloir que n'importe quelle langue qu'on apprend rejoigne les deux aspects. La communication
et la culture.
Et la culture.
C'est un beau défi.
On ne peut pas apprendre une langue si on laisse de côté la culture. Utiliser une expression à la place d'une autre, c'est la culture qui est derrière l'expression, derrière la façon de parler des gens.
Comment apprend-on le français au Québec? Si on est un immigrant, qu'on arrive, comment ça se traduit? Et comment ça se traduit aussi ensuite pour les enfants du Québec aujourd'hui dans leur système scolaire?
Je vais revenir à peu près dans les années 70, au moment où pour la première fois au Québec, il y a eu un parti nationaliste, le Parti québécois, qui avait pris le pouvoir. Et un des objectifs du parti, si on laisse de côté le fait que c'est un parti qui veut que le Québec devienne un pays séparé du Canada. Si on laisse de côté cet aspect-là, la principale préoccupation de ce parti-là, c'est la défense et la promotion du français, qui était très menacé du fait que il y a au niveau de natalité, le taux de natalité au Québec est très bas. Je pense que c'est autour de 1,3%, qui n'est pas suffisant pour maintenir
un renouvellement
de la population. Donc, il y a des politiques d'immigration. Mais il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, la plupart des immigrants, quand ils arrivaient au Québec, envoyaient leurs enfants apprendre l'anglais. Il n'y avait pas de politique d'État pour que les gens apprennent le français. Il n'y avait aucune motivation.
On était libre, quand on arrivait au Québec, de choisir la langue.
Oui, mais moi, je n'aime pas beaucoup le mot libre, parce que ça vous dit qu'en ce moment, on ne l'est pas. Mais la préoccupation de ce gouvernement, alors, c'était justement de promouvoir le français. Et ils ont voté une loi qui est devenue très courante en Amérique du Nord, au Québec, c'est la loi 101, qui prévoit que les enfants dont les parents arrivent au Québec doivent suivre des études en français. Ce qui fait qu'en ce moment, on a ce qu'on appelle les enfants de la loi 101. C'est des enfants qui ont déjà fait tout leur parcours scolaire et qui se retrouvent maintenant
sur le marché du travail.
Ils sont déjà sur le marché du travail. Et vous voyez des gens de n'importe quelle nationalité qui parlent un français impeccable. Ça, c'est par rapport aux enfants. Parents, quand ils arrivent, les adultes reçoivent de la part du gouvernement des cours de français qui leur sont alloués pendant des périodes qui peuvent aller de 20 à 30 semaines à temps plein.
Et donc, c'est suffisant pour donner un bon bagage
linguistique. C'est suffisant comme une première francisation. Ensuite, on suppose, à tort ou à raison, quelquefois, que où les gens vont aller se perfectionner, ou que c'est le marché du travail qui va les aider à améliorer le français. Moi, je me souviens avoir eu des étudiants qui baragouinaient un peu le français quand ils quittaient nos cours, et que je rencontrais des années plus tard qui parlaient un français parfait parce qu'ils avaient travaillé en français. Par contre, des étudiants qui avaient quitté nos classes et qui étaient très bons au moment où ils étaient en classe, s'ils s'en allaient travailler soit dans leur langue maternelle, parce que ça s'est fait, comme j'imagine que ça s'est fait en France aussi, ou en anglais, à un moment donné, régresser au lieu de progresser.
Alors, on peut évaluer un petit peu le nombre d'étudiants, d'immigrants, de personnes qui suivent ces cours.
Des adultes.
Alors, si vous avez une fourchette.
J'ai les chiffres du ministère où je travaille, le ministère de l'immigration et de la communauté culturelle, qui s'est donné comme objectif d'avoir à chaque année dans ses classes, dans ses cours, à peu près 10 000 personnes. Ça, quand vous considérez que le Québec accueille à peu près 40 000 immigrants par année, et quand on dit 40 000, ça couvre, c'est le noyau familial, donc il y a enfants et adultes, et que parmi ces 40 000, il y a à peu près la moitié qui sont déjà qualifiés, qui sont déjà francophones, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre qui passe par nos cours.
Par ces formations. Ouais. Quel est le projet de la commission en dehors du grand colloque là prévu? Est-ce qu'il y a en ce moment, est-ce que les associations québécoises ont mis en œuvre des actions particulières?
Le rôle de notre association et de la commission, c'est un peu de pallier le manque de perfectionnement que le ministère peut donner aux professeurs. Donc, à chaque année, autant l'Association québécoise des professeurs de français que notre association, nous organisons des congrès une fois par année avec la participation, le nôtre en tout cas, d'à peu près entre 600 et 700 enseignants qui viennent se perfectionner pendant 3 jours dans nos congrès.
Est-ce que au sein de vos associations, vous accordez une importance particulière aux nouvelles technologies ou
Ça fait partie des domaines. Ce n'est pas le seul domaine. Mmh. Ça a été très à la mode il y a 2-3 ans, mais là, sans le délaisser, il y a comme un retour aussi aux vieilles méthodes, mais à un moment donné, il y a quelques années, avec l'avènement de l'approche communicative, on avait laissé de côté l'aspect formel de la langue, la grammaire. Là, ça revient à la mode. Les étudiants la demandent, la qualité de la langue revient à la mode.
On porte un intérêt.
À un moment donné, on disait l'important, c'est que la communication passe.
Et aujourd'hui, on revient sur la qualité.
Aujourd'hui, il faut communiquer, mais il faut communiquer correctement.
En plus, je crois qu'au Québec, il y a aussi une association où c'est l'Université Laval qui s'est occupée de lancer toute une entreprise de lexicographie sur le français. Au Canada, enfin au Québec.
Mais... Au niveau de la lexicographie, je pense que il y a peut-être l'Université Laval, mais il y a un organisme d'État qui est l'Office québécois de la langue française, qui est très avancé en termes de lexicographie, justement, un dictionnaire de
la langue.
De la langue, oui.
Alors, on voit que les entreprises, concernant la défense de la langue, concernant sa défense, mais aussi, pas sa conservation, mais sa protection, enfin, je ne sais pas comment dire.
Oui, la protection, la conservation, effectivement, la promotion.
Sont nombreuses. Je voudrais vous poser pour dernière question, que représente pour vous, que recouvre pour vous la francophonie, le terme de francophonie?
Je ne vous cache pas que pendant longtemps, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, surtout quand je voyais, quand on parlait de francophonie, quand on avait des pays, je vous donne l'exemple du Laos, le Vietnam. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que le Vietnam ou le Laos font dans la francophonie? Mais effectivement, je pense que j'ai compris avec le temps que le rôle de la francophonie, c'est la promotion de la culture française dans tous les pays où on enseigne le français aussi. Donc, pour moi, la francophonie, c'est une entreprise intéressante. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui est un partenaire important au niveau politique. Je pense aussi que je fais un peu le parallèle avec le Commonwealth anglais, qui est sans avoir nécessairement un pouvoir politique, a un pouvoir d'influence dans certaines décisions au niveau de la politique internationale. Et je pense que l'OIF, la francophonie, ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Il y a des valeurs francophones qui n'ont rien à voir avec des valeurs dans d'autres contrées dans le monde, et des valeurs qu'il faut promouvoir aussi.
Carlos Carmona, je vous remercie cet entretien.
C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir et un honneur pour moi de partager quelques minutes avec vous.
Et pour nous de vous recevoir.